RFI, grand reportage.
Charlotte Hydrac.
Bonjour, la construction d'une véritable architecture africaine de sécurité sur le continent. Il en sera question lors du prochain sommet Afrique-Europe à Abidjan à partir de mercredi, alors que les opérations de maintien de la paix de l'ONU ont montré leurs limites en Afrique. Dans la région du Sahel et du Sahara, une initiative régionale a vu le jour, parrainée par la France, mais soutenue par l'Union européenne et les États-Unis. La force conjointe du G5 a été lancée début juillet par le président Emmanuel Macron. 5 pays de la région, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, mais aussi la Mauritanie et le Tchad, se sont mis d'accord pour mettre sur pied une force anti-terrorisme de 5000 hommes destinée à occuper le terrain dans les zones frontalières en attendant une éventuelle force expéditionnaire anti-terroriste dont le G5 parle depuis fin 2015. Le G5 face aux défis sécuritaires du Sahel. Grand reportage signé Olivier Four et Anthony Fouchard, nos envoyés spéciaux, ont suivi les tout premiers pas de la force conjointe lors de l'opération Aobi réunissant 3 pays de la région au début du mois.
Coordination effectuée. Les Burkinabés vont éclairer, suivis par les FAMA. Nous pourrons poursuivre à la suite de leur convoi.
4 novembre 2017, les troupes maliennes de la force conjointe effectuent une première jonction avec leurs voisins burkinabés. Épaulés par Barkhane, qui fournissait renseignements, logistique et appui aérien, elles ont ratissé une zone de 130 km sur 100 au cœur d'un quadrilatère situé entre les localités d'Intilit, Ansango au nord, Markoy et Bankilaré au sud. Une zone à cheval sur 3 frontières, entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, une zone dangereuse où opèrent notamment les hommes du groupe terroriste Ansaru al-Islam. Régulièrement, des véhicules sautent sur des mines ou des bombes artisanales dans ce secteur. Au final, une opération sans accroc, sans réel résultat immédiat non plus. Aobi aura constitué un test grandeur nature et aura eu le mérite de rassurer les partenaires de la force conjointe du G5 Sahel. Une alliance naissante, comme le rappelait quelques jours plus tard au forum de Dakar, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta.
Je ferai tout ce que je pourrai, jusqu'à mon dernier souffle, pour que mon pays ait des moyens de défense à hauteur de la menace qui lui est faite. Mais pas seul, pas seul. Je suis bien conscient de la modestie de nos moyens. Et individuellement pris, aucun de nos pays n'a les moyens aujourd'hui. Dans la situation où nous sommes, aucun de nous ne peut faire face aujourd'hui au type de menace asymétrique à laquelle nous faisons face. C'est cela qui a amené à la création du G5 Sahel, dont j'assume aujourd'hui la présidence en exercice, et sa force conjointe sur le terrain.
Forum annuel paix et sécurité dans la capitale sénégalaise. Tout le monde se félicite de la réussite de l'opération. Florence Parly, la ministre française des armées.
L'opération Aobi est une véritable prouesse puisque il y a encore quelques mois, cette force conjointe n'existait que dans les esprits. Ce n'était pas une réalité. Au mois d'août, il n'y avait encore aucune infrastructure prête pour lancer cette opération. Et les calendriers ont été tenus. Les financements pour le démarrage de cette force ont été au rendez-vous. Et donc maintenant, notre objectif collectif, c'est de contribuer tous à réunir l'ensemble, notamment des éléments de financement qui sont nécessaires à la poursuite de la montée en puissance de cette force conjointe pour que celle-ci puisse jouer un rôle croissant dans la stabilisation de la région de la BSS. Je pense que c'est tout sauf une opération de communication. C'est une première opération, ce qui veut dire la coordination entre des forces qui ne travaillaient pas nécessairement toujours ensemble. C'est la mise en place d'un système de commandement sous l'autorité du général Dacko. C'est la mise en place effective de centres opérationnels de commandement, au cas particulier celui de Niamey. Un nouveau centre de commandement est quasiment opérationnel au Mali, à Sévaré. Bref, l'émergence de la force conjointe du G5 Sahel illustre parfaitement cette prise de conscience que la sécurité en Afrique est aussi l'affaire des pays africains.
PC Bagadji à Niamey, le poste de commandement dont parle Florence Parly. C'est de là qu'a été conduite l'opération Aobi. La planification, elle, avait eu lieu des mois à l'avance. En fait, Aobi était une opération militaire transfrontalière conjointe, déjà programmée par les pays de la région. Une vingtaine d'opérations de ce genre ont déjà été menées en bilatéral avec l'appui de Barkhane depuis 2015. À l'origine, cette opération devait avoir lieu au printemps dernier. Mais après un raid français, non loin de là, dans la région de Foulsaré, son exécution avait été décalée. La force conjointe a donc en quelque sorte recyclé le plan de bataille et en a fait sa toute première opération concrète sur le terrain.
Et qu'il en sablé !
Dans une zone semi-désertique, rocailleuse, parfois couverte de petites forêts d'épineux, 200 soldats des forces nigériennes ont été engagés, 200 soldats maliens, des FAMA, et 350 venus du Burkina Faso, la plus forte participation. Pour cette opération, ils s'étaient accordés un droit de poursuite mutuelle d'une cinquantaine de kilomètres. L'union fait la force, à condition de bien se coordonner, reconnaît le chef d'état-major des armées du Burkina, le général Oumarou Sadou.
Effectivement, ce n'est pas toujours facile. Il se peut que dans la partie des trois frontières, le secteur d'un bataillon national peut ne pas répondre toujours là où la menace du moment pèse. Mais c'est toujours un avantage, une opportunité d'avoir une autre force alliée qui constitue soit un frein ou bien un renfort de part et d'autre de la frontière.
Les forces du Burkina sont toujours engagées dans la MINUSMA également. Donc ça fait quand même une forte pression sur la ressource des forces armées burkinabées, sécuriser la frontière, être dans cette zone de trois frontières et en même temps être au nord, voire même protéger la capitale. On a vu ce qui s'est passé encore en août dernier.
Effectivement, c'est une forte pression. Nous avons deux bataillons au Mali, c'est vrai. Ça pèse, mais si ça marche bien au niveau de l'AMINUSMA, on considère que c'est un rideau, ça devrait être un rideau avancé pour nos forces.
Problème pour les forces burkinabées. Ces éléments sous les couleurs de l'ONU sont mieux payés que ceux participant à la force conjointe. Les soldats réclament des primes, mais à ce jour, le G5 n'est pas en mesure de les régler. Si la MINUSMA et leurs 12 000 hommes sont régulièrement critiqués pour leur manque d'efficacité, la force onusienne n'était pas absente de l'opération. Elle avait notamment renforcé ses contrôles sur le bac de l'Eléoï, permettant la traversée du fleuve Niger sur la partie est du dispositif de l'opération Aobi. C'est par là qu'aurait pu fuir un éventuel groupe armé. Barkhane, la MINUSMA, la force conjointe, cela faisait donc beaucoup d'acteurs dans la même zone, avec des moyens et des mandats différents. Le général malien Didier Dako, le commandant de la force conjointe du G5 Sahel.
L'ennemi, il est à multiples facettes. Vous savez, dans la bande sahélienne en général, il y a beaucoup d'éléments qui constituent l'ennemi. Vous partez au Mali. Moi, je qualifie la situation au Mali d'un cocktail qui est composé de beaucoup d'ingrédients. Il y a une question insurrectionnelle, il y a une dynamique terroriste, il y a du trafic de drogue, il y a du trafic d'êtres humains, de l'immigration clandestine, tous ces aspects. Il y a du banditisme, et il y a des conflits communautaires. Il y a tous ces éléments, tous ces ingrédients mis ensemble qui existent au Mali et qui débordent des frontières du Mali. Donc, d'ouest en est, dans la bande sahélienne, dans l'espace G5 Sahel, nous avons divers types de menaces. Si à l'est, nous avons essentiellement une menace qui est caractérisée par du trafic d'êtres humains, du trafic de drogue et du trafic d'armes, ce n'est pas le cas fondamentalement dans le fuseau ouest, qui est essentiellement marqué par du terrorisme. Et un terrorisme également dans une moindre mesure comparé au fuseau centre. Je vais dire la bande frontalière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où il y a réellement du terrorisme qui est beaucoup plus accentué. Donc la menace est multiforme. Il y a du terrorisme, il y a une dynamique insurrectionnelle. Et il faut bien faire la distinction entre ces différents éléments pour ne pas se tromper de cible. Car, comme vous le savez, la force conjointe est particulièrement orientée sur la lutte contre le terrorisme. Et elle n'est pas impliquée dans la gestion de la question insurrectionnelle au Mali, qui est essentiellement du ressort de l'AMINUSMA. Ben actuellement, dans l'espace G5 Sahel, Mali, Burkina Faso, il n'y a plus de voisins, on est presque tous pareils maintenant. D'abord, l'opération Aoubi a permis, en fait, au niveau des postes de commandement de Sévaré et de Niamey, nous a permis de comprendre qu'il y a réellement des challenges à mettre en place une opération, à planifier et à conduire. Mais cependant, c'est en train de faire. Il y a beaucoup de difficultés qui sont apparues, des difficultés de coordination, les moyens de communication à parfaire encore et les délais de mise en place à revoir pour que les prochaines opérations soient mieux planifiées, j'allais dire mieux conduites.
5 opérations de la force conjointe sont programmées d'ici août 2018. Les partenaires se connaissent déjà bien, mais ils savent qu'il faut désormais inscrire leur action sur la longueur, là où Aoubi n'a duré qu'une douzaine de jours. Le chef d'état-major des armées du Niger, Seyni Garba.
C'est vrai, on a l'habitude de travailler ensemble au niveau bilatéral. Mais depuis l'arrivée de Barkhane aussi, nous avons eu à organiser ce qu'on appelle des opérations conjointes transfrontalières. Mais ces opérations étaient des opérations ponctuelles. On en a un certain nombre dans l'année. Bien sûr, c'est des opérations qui sont planifiées, connues. Probablement avant le déclenchement, les terroristes même sont au courant qu'il va avoir les opérations. Bien sûr, c'est très difficile de les retrouver sur place parce qu'ils prennent généralement leur disposition pour se cacher ou pour se confondre à la population ou pour pouvoir quitter la zone. Donc, avec la mise en place de la force conjointe, nous allons avoir des forces permanentes dans la zone. Donc, il s'agit d'occuper ces zones pour marquer la présence de l'État, pour assurer les populations, pour les protéger, pour protéger leurs biens, bien sûr, dissuader les touristes. Donc, ça nous permettra effectivement de faire face beaucoup plus facilement à la menace, puisque nous avons des troupes permanentes dans le secteur.
Nous quittons le Niger, direction la localité d'Intilit, au Mali. C'est dans cette région que la force Barkhane avait installé une boîte pendant l'opération Aoubi. Comprenez, une BOAT, une base opérationnelle avancée temporaire. Au total, Barkhane avait mobilisé sur le terrain 3 détachements d'une 60aine d'hommes en appui aux forces du G5. Début de patrouille avec l'adjudant-chef Nelson.
On va faire le tour de la ville. Donc on va passer par le quartier sud et rejoindre le centre où se trouve l'antenne de radio et le château d'eau. Donc là, on est à Intilit, un village malien qui est proche de la frontière avec le Burkina Faso. Donc là, on est à une centaine de kilomètres de la frontière et à plus d'une centaine de la ville de Gao, dont dépend Intilit. Alors ça, c'est une zone qui est plutôt livrée à elle-même, où l'armée malienne ne passe que très très rarement. Donc là, c'est justement le but un peu de la patrouille, c'est de savoir qui passe dans la zone et pourquoi.
Pour savoir ce qui se passe, c'est la population qu'il faut interroger. Souvent des populations nomades, pas toujours prêtes à coopérer. C'est ce qu'explique ce traducteur malien travaillant pour le compte de la force. Par mesure de sécurité, il souhaite garder l'anonymat. Nous avons donc doublé sa voix.
Ils ont peur à cause des méchants. Ici, il n'y a pas l'État malien. Donc, une fois qu'on sera passé, les méchants vont venir et vont demander qui parlait avec les forces étrangères. Ils ont leurs espions ici, là où on se trouve. Ils nous regardent et ils vont dire c'est telle ou telle personne qui a parlé. Et là, ils auront affaire à eux. Il y a des représailles ici. Leur méthode, c'est de dire dès qu'il y a des forces étrangères qui passent, dites-leur que tout va bien et à partir de là, on pourra travailler ensemble. Parce qu'en l'absence de l'État malien, c'est avec nous que vous devez travailler. Ils sont menacés par les groupes armés et ils n'ont pas le choix, c'est comme ça.
La nuit est tombée, à la sortie du camp des forces maliennes, à une dizaine de kilomètres de là, nous croisons le maire de la localité voisine de Tessit, venu prendre contact avec les forces maliennes. Ibrahim Ag Efanfan reconnaît qu'on cherche régulièrement à l'intimider.
On est menacé, oui. On est obligé seulement de faire le quotidien. Quand j'ai besoin d'aller en Songo, je vais en Songo. Quand on m'appelle, je vais là-bas. Quand on est chef, là, on est obligé de se sacrifier. C'est un sacrifice. C'est la responsabilité.
Pourtant, dans la zone, la menace est loin d'être claire. En l'absence de représentants de l'État, chacun tire profit de l'insécurité ambiante. Les groupes armés proposent souvent leur protection face aux voleurs ou aux coupeurs de route. C'est ce qu'explique Rali Ag Inti Kishmen, conseiller communal à Tessit.
Surtout sur les axes routiers. Tessit, en Songo, il y a des braquages, des enlèvements de motos, enlèvements de matériel et tout. Et ensuite, Kegurutan Tessit, on braque les gens, on leur enlève leurs motos, on leur enlève tout ce qu'ils ont. Surtout entre les marchés. Entre le Burkina aussi, Burkina et Tessit, on fait des braquages, on enlève les motos, on enlève l'argent, les portables, tout. Mais les gens, comme il l'a dit, le maire l'a dit, on n'a pas le choix. L'insécurité, c'est un peu partout, on est obligé de vivre, de braver l'insécurité, parce que partout, on n'a pas le choix, on va aller où? On n'a pas le choix, c'est un quotidien, on est obligé de vivre au quotidien cette situation. C'est vraiment des banditismes. Parce que les terroristes se livrent rarement des braquages. Ils n'enlèvent pas les motos, ils n'enlèvent pas les portables, ils n'enlèvent pas l'argent, ils n'enlèvent pas vraiment. Ça, c'est des domaines des bandits, des petits bandits, des voleurs, des petits groupes non organisés.
Lors de son passage avec Barkhane, le lieutenant Gaoussou Diarra des forces armées maliennes promet de faire son possible.
Nous, l'objectif pour nous, à Tessit ici, c'est la sécurisation de la population, mettre tout en œuvre pour que la population puisse vivre dans les meilleures conditions et que les déplacements des commerçants à travers les autres villes, ça puisse bien marcher. C'est-à-dire on va patrouiller dans les secteurs tout autour et les axes routiers pour les commerçants, les jours du marché, essayer de sécuriser ces axes-là pour que la population civile puisse le mieux se déplacer pour faire ses commerces.
Vas-y.
Sur le terrain, le déploiement de la force conjointe du G5 devrait donc permettre de renforcer le maillage sécuritaire dans des zones bien déterminées. Occuper le terrain, récolter du renseignement et tenter de couper les terroristes de la population. Barkhane va prendre également le même virage, mettant les populations au centre de son action, plutôt que de ratisser de larges zones désertiques à la recherche de groupes armés terroristes insaisissables. Le général Bruno Guibert, le commandant de la force Barkhane.
Il faut que nous changions, que nous fassions évoluer nos modes d'action parce que l'adversaire nous observe, regarde comment nous travaillons et que c'est un adversaire qui est coriace, qui est difficile, qui a des techniques de dissimulation, des techniques de guérilla, d'insurrection, il manipule et il se protège au milieu des populations. Donc il va falloir que nous fassions évoluer nos modes d'action en étant beaucoup plus imprévisibles et surtout en allant contrôler des zones dans la durée, sur le terrain, là où se concentrent les populations, là où se concentrent également les GAT, de manière à faire changer les certitudes de camp. Donc nous aurons des opérations vraisemblablement beaucoup plus longues. Nous le ferons en liaison avec nos partenaires, donc les partenaires de la force conjointe, mais aussi nos partenaires bilatéraux. Nous travaillerons directement avec les FAMA, avec l'armée nigérienne, Burkinabé, s'il le faut. Nous le ferons bien évidemment avec la MINUSMA. La force Barkhane, effectivement, est en appui ferme et déterminé et constant auprès de la force conjointe pour la montée en puissance, pour l'opérationnalisation, dans des domaines qui sont un petit peu sensibles et critiques, donc dans le domaine de la planification, dans le domaine de l'appui logistique, dans le domaine du renseignement. Mais effectivement, nous avons vocation à disparaître progressivement du paysage et à ce qu'ils prennent leur totale autonomie.
Passer la main aux forces locales avant de se retirer, c'est déjà ce que les Américains avaient voulu faire en Afghanistan à partir de 2014. 3 ans après, l'OTAN réfléchit à renvoyer des troupes dans ce pays. Au Sahel, la France souhaite alléger son dispositif et est toujours à la recherche de financement pour soutenir les armées des pays du G5. À 15 jours de la réunion des donateurs à Bruxelles, il reste toujours une centaine de millions à trouver pour financer les premiers pas de la force conjointe qui doit être pleinement opérationnelle en mars 2018. Le G5 face aux défis sécuritaires du Sahel, un grand reportage d'Olivier Four et Anthony Fouchard avec les contributions de Guillaume Thibault et Pierre Firsion à Dakar, réalisation Eva Moschinski.